et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. C'est vous qui avez envoyé des messagers à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela pour que vous, vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez bien voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a données à accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, me rendent témoignage, attestant que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé m'a lui-même rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu son visage, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des humains, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui provient de Dieu seul? Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai auprès du Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous, vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui, c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ?
Lève-toi, prends ton grabat et marche. Par cette simple parole, Jésus a mis fin à 38 ans de cauchemar dans la vie d'un homme paraplégique. Je ne reviens pas ce soir sur les détails de cet épisode que Paul a commenté pour nous la semaine dernière. Mais suite à cet acte de compassion, Jésus est critiqué. Il est même accusé par les autorités religieuses de son époque de désobéissance à la loi de Moïse. C'est quand même frappant lorsqu'on y pense. On imaginerait que ces responsables religieux soient émerveillés de voir un homme guéri après 38 ans de ce terrible handicap. Mais non, ils s'en prennent à Jésus parce qu'il a demandé à l'ex-paralytique de prendre son grabat, de le porter donc, alors que c'était un jour de sabbat, un jour qui devait être consacré au repos complet. Là, on s'attendrait à ce que Jésus réponde en faisant appel à leur sens de la compassion, ou en soulignant même que leur interprétation de la loi était très contestable, puisqu'il était très communément admis que même le jour du sabbat, on puisse venir au secours de quelqu'un qui était dans une situation de détresse. Mais il est frappant de voir que Jésus ne répond pas du tout comme ça. Il répond en revendiquant son autorité de manière saisissante. On a ici un texte qui nous place devant des affirmations de Jésus parmi les plus massives, les plus fortes du Nouveau Testament. Jésus affirme que si Dieu, et ça c'est dans la fin de l'extrait de la dernière fois, Jésus affirme que si Dieu continue à œuvrer même pendant le sabbat, heureusement pour le monde, que Dieu continue à œuvrer, à soutenir le monde même pendant le sabbat, eh bien lui aussi, Jésus, peut par la même continuer à œuvrer. Et en disant cela, implicitement mais clairement, Jésus revendique pour lui-même l'autorité de Dieu. Et d'ailleurs, ses adversaires l'ont pleinement compris, verset 18, c'est pourquoi les Juifs, lorsque l'apôtre Jean utilise cette expression, il évoque les autorités religieuses juives, c'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait, d'après eux, le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Et à partir du verset 19, Jésus prend la parole et il va commencer à répondre à ces accusations. Par son choix de vocabulaire, qui a de fortes connotations juridiques, c'est comme si Jésus présentait sa défense lors d'un procès. Et donc on va suivre cette logique juridique et on va examiner ce texte en trois temps. Je ne serai pas trop long, je vous rassure. On va y arriver. Voilà. D'abord, un plaidoyer. Les œuvres de Jésus sont les œuvres de Dieu. Et on passera un petit peu plus de temps sur ce premier point. Et ensuite, plus brièvement, témoignage. Cinq témoins en faveur de Jésus. Et enfin, un réquisitoire. Ce sont les accusateurs qui se retrouvent accusés. D'abord donc un plaidoyer. Les œuvres de Jésus sont... Pardon, ah, ça vient d'un autre PowerPoint, on va y arriver. Voilà. Les œuvres de Jésus sont les œuvres de Dieu. Au verset 18, on vient d'entendre l'accusation formulée contre Jésus. Il se fait l'égal de Dieu. Comment est-ce que Jésus va répondre à cela? Alors beaucoup de lecteurs de ce texte aujourd'hui auraient sans doute aimé qu'il réponde ainsi, et déjà à l'époque d'ailleurs. Mais non, non, oula, les amis, c'est un malentendu. J'ai jamais dit que j'étais l'égal de Dieu. Non, j'ai simplement dit que Dieu m'avait désigné pour être son porte-parole, son prophète. C'est tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas du tout ça que Jésus répond. Sa réponse, au contraire, nous fait pénétrer dans le mystère de la relation entre le Père et le Fils, dans le cadre de la Trinité. Dans sa réponse, Jésus va à la fois se présenter comme distinct de son Père. Il y a une relation entre eux, donc il s'agit de deux personnes, mais il y a un parfait accord. De sorte que ce que fait l'un, c'est l'autre qui le fait. Leurs volontés sont parfaitement unies. Au verset 19, Jésus utilise une image. Il utilise l'image d'un fils qui est apprenti auprès de son père. C'est une image implicite. Il est possible d'ailleurs que Jésus ait eu à l'esprit sa propre expérience d'apprenti charpentier auprès de son père au sens des relations humaines, Joseph. Si on pense à un fils qui apprend le métier de charpentier aux côtés de son père, ben il ne va pas inventer ce qu'il fait. Peut-être plus tard, mais là, il ne va pas inventer ce qu'il fait lorsqu'il apprend. Il va imiter ce que fait son père. Et Jésus applique cette image à la relation entre son père céleste et lui, pour montrer que sa volonté n'est pas indépendante de celle de son père. Et c'est comme si Jésus disait à ses accusateurs, « Mais ce que je fais quand je guéris un homme paralysé, quand je remets en question la manière dont vous appliquez le sabbat, ce n'est pas moi qui l'invente. Ce n'est pas moi qui décide indépendamment de faire telle ou telle chose, mais je fais la même chose que mon père. » Jésus insiste sur l'aspect symétrique de cette image. Verset 20, « Le père est l'ami du fils. » On pourrait traduire tout simplement, ce que font d'ailleurs la plupart des autres versions bibliques, « Le père aime le fils. » Le père aime le fils. Et il lui montre tout ce que lui-même fait. Si on a à l'esprit l'image du charpentier et de son fils dans leur atelier, ce n'est pas seulement le fils qui va regarder attentivement ce que fait son père, mais le père va prendre le temps de montrer au fils ce qu'il fait. Alors c'est une image que Jésus donne ici. Et il ne faudrait pas pousser cette illustration au-delà de sa fonction dans le discours de Jésus. Jésus n'est pas en train de dire ici qu'il a dû apprendre à être Dieu ou je ne sais quoi comme cela. Ce qu'il dit, c'est que ses œuvres sont les œuvres du Père. Il y a parfaite harmonie, il y a parfaite unité de leur volonté. Or, Jésus va appliquer ce principe à deux domaines, le don de la vie et l'exercice du jugement. Il aurait pu parler de bien d'autres domaines, mais dans ce texte, dans ce discours, c'est de ces domaines-là qu'il va parler. D'abord, le don de la vie. Dans la pensée biblique, il n'y a pas de doute, c'est Dieu qui donne la vie. Il est le créateur, non seulement le créateur, mais celui aussi qui maintient et renouvelle la vie dans le monde. Or, plusieurs textes bibliques, déjà dans l'Ancien Testament, laissent entrevoir l'espérance que Dieu renouvellerait la vie même au-delà de la mort. Que Dieu, lui qui est le créateur de la vie, lui qui n'est pas limité, lui qui est éternel, renouvellerait un jour toute la création pour toujours. Et la Bible nous dit même que la vocation humaine, originelle, la vocation humaine à l'origine de tout, c'est de vivre éternellement avec Dieu. Eh bien, Jésus va revendiquer pour lui-même l'autorité et la puissance de donner la vie au-delà de la mort. C'est là qu'on se rend compte que les affirmations de Jésus ne sont pas anodines. Hein. Et comme Paul nous l'avait fait remarquer par une citation dimanche dernier, il faut choisir face à ces affirmations de Jésus. On ne peut pas dire simplement ah, « c'est intéressant ce qu'il dit, grand penseur, grand prophète ». Non, soit ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Vous imaginez si l'un d'entre nous revendiquait la puissance de donner la vie et la mort, de ressusciter les morts. Soit c'est la vérité, et il est véritablement celui qu'il affirme être. Verset 21. « En effet, tout comme le Père réveille les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. » Alors qu'est-ce que Jésus veut dire par là ? Est-ce qu'il parle au sens spirituel, au sens où il donne la vie spirituelle à ceux qui sont spirituellement morts ? Ou bien est-ce qu'il parle au sens littéral, au sens de la résurrection physique des morts ? Et en fait, la réponse du texte, c'est les deux. Au verset 24, Jésus affirme, en parlant au présent, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Et là, Jésus semble parler d'une vie nouvelle sur le plan spirituel, par laquelle on entre dans une relation personnelle avec le Dieu vivant. Et au verset suivant, d'ailleurs, il va approfondir cette idée. Mais par contre, au verset 28 et 29, un petit peu plus loin, Jésus va ajouter « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui ont fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. » Ce verset n'est pas facile, j'y reviendrai en un mot tout à l'heure, mais ici Jésus parle d'un jour futur où ceux qui sont morts, au sens physique cette fois du terme, retrouveront la vie par la puissance divine, par la puissance de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui même, Jésus nous offre une vie nouvelle par laquelle nous sommes ancrés dans une relation avec lui pour toujours. Mais un jour, nous dit la Bible, la vie que Dieu donne triomphera définitivement de la mort. Et tous ceux qui auront déjà reçu cette vie comme en acompte, spirituellement parlant, par leur foi en Jésus, connaîtront alors un renouveau de leur être entier, la résurrection corporelle et la vie éternelle. Tandis que d'autres, et ce verset est dur, mais c'est la vérité biblique, malheureusement d'autres verront alors leur mort spirituelle s'inscrire à l'horizon de l'éternité. Mais revenons à l'autorité que Jésus revendique ici. Il a l'autorité et la puissance de donner la vie dès aujourd'hui et pour l'éternité. Cette autorité, il n'y a pas de doute, c'est une autorité divine. Alors qu'est-ce que ça doit susciter comme réaction chez nous ? Eh bien, la Bible nous dit ni plus ni moins que la vie véritable est exclusivement liée à la personne de Jésus. Ce que je dis là est très dur à entendre dans notre civilisation, et dans toutes les civilisations d'ailleurs. La Bible dit ni plus ni moins que la vie véritable est exclusivement liée à la personne de Jésus. Vous voulez la vie ? C'est Jésus qu'il vous faut. Vous voulez sortir de votre état de mort spirituelle, de cette ignorance de celui qui vous a créé ? C'est Jésus qu'il vous faut. Vous aspirez à une vie qui s'inscrit pour toujours parce que vous ressentez au plus profond d'entre vous le caractère tragique de la mort, comme si la vocation humaine n'était pas de mourir, mais de vivre. C'est en Jésus que vous trouverez la réponse à cette aspiration profonde. C'est en lui que vous pourrez puiser encore et encore, sans fin, à la source de la vie. Le second exemple de son autorité divine que Jésus donne, c'est celui du jugement. Fondamentalement, dire que Dieu juge, c'est dire qu'il a un droit absolu sur la vie de chacun en tant que créateur et qu'un jour, ultimement, Dieu dira oui ou non à propos de la vie de chacun. Dieu et lui seul a le droit d'accorder ou de ne pas accorder sa grâce. Or, Dieu a choisi de se réconcilier avec les hommes par le biais de son Fils Jésus-Christ et par lui seul. Jésus donne sa grâce à tous ceux qui la reçoivent. Il y a là une invitation ouverte à tous, sans exception. Mais Dieu a choisi de se réconcilier avec les hommes par Jésus-Christ. Et pour ceux qui le rejettent, qui persiste, parce que nous l'avons tous rejeté à un moment ou à un autre, mais qui persiste à le rejeter jusqu'au point final de leur vie, il a aussi reçu l'autorité du Père de dire non. Il a reçu l'autorité de juger. Et c'est pour ça qu'il peut dire au verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils pour que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Ça peut nous faire peur ou ça peut nous choquer. Et pourtant, ça devrait nous émerveiller parce que Jésus nous dit qu'il offre librement, gratuitement et définitivement le oui permanent de Dieu sur notre être et notre vie. Le seul critère déterminant pour cela, c'est notre foi en lui ou son absence. Verset 24, « Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » C'est sûr, c'est une assurance. Il ne vient pas en jugement. Il est déjà passé de la mort à la vie. Comme Juliana et comme beaucoup d'entre nous ce soir, et je l'espère bientôt tous. Pourtant, diront certains, mais est-ce que Jésus ne dit pas juste après, au verset 29, que finalement il va séparer ceux qui ont fait le mal et ceux qui ont fait le bien en fonction de leurs œuvres, et que c'est ça finalement qui va décider de notre sort? Ce qui est décisif pour comprendre ce verset, c'est de saisir que pour Jésus, faire le bien, c'est avant tout croire en lui et lui confier sa vie. Un peu plus loin, dans cet évangile, au chapitre 6, alors qu'on lui demande ce qu'il faut faire justement comme œuvre pour parvenir à la connaissance de Dieu, eh bien Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé, autrement dit, lui. En Jésus et en lui seul se concentre le sens de la vie de chaque personne ici présente. Parce qu'il n'y a rien de plus important pour l'homme que de connaître celui qui l'a créé. Plus brièvement, je voudrais revenir à notre procès et m'intéresser à 5 témoins qui témoignent en faveur de Jésus. En écoutant les affirmations de Jésus, quelqu'un pourrait se dire « Mais qu'est-ce qui va me permettre de croire à ce que dit Jésus ? Après tout, il y a des illuminés dans la vie, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Est-ce que ça ne serait pas l'un d'entre eux ? Est-ce que ça ne serait pas sinon un imposteur ? Une sorte de gourou ?» Et déjà, à l'époque de Jésus, beaucoup se posaient cette question en entendant ces affirmations tellement fortes. Et Jésus en est parfaitement conscient. Et c'est à cette question de la véracité de ces affirmations qu'il va consacrer la partie suivante de son discours, au verset 31 à 47. Dans un procès, les témoignages, soit à charge contre un accusé ou à décharge en faveur d'un accusé, jouent un rôle important. C'est encore le cas aujourd'hui. En France ou dans d'autres pays, on peut penser à ces films américains où on assiste souvent à une scène où le témoin clé arrive à un moment clé à la fin du procès et donne un témoignage décisif qui va permettre soit d'innocenter, soit d'accabler l'accusé. Mais c'était déjà vrai à l'époque de Jésus, cette importance du témoignage à son époque et dans la culture juive qui était la sienne. Et au verset 31 à 47, Jésus va décliner de diverses manières cette notion de témoignage. Il commence par dire, au verset 31, que ce qu'il dit à propos de lui-même est attesté par des témoins. Il va citer 5 témoignages en sa faveur. D'abord, un peu discrètement, il évoque le témoignage de Dieu, le Père lui-même, dès le verset 32, alors il ne le dit pas explicitement, verset 32, mais dans la foulée des versets précédents, il semble bien que cet autre qui témoigne de Jésus, c'est le Père lui-même. Et ce sera confirmé au verset 37, explicitement cette fois. Le Père témoigne du Fils. Il y a le témoignage de Jean-Baptiste ensuite. On a parlé récemment de Jean-Baptiste. Rappelons qu'il a présenté Jésus à ses propres disciples, lui qui était prophète, comme le Messie et le Sauveur du monde. Puis il y a le témoignage des propres œuvres de Jésus, les signes miraculeux notamment, qu'il a accomplis, verset 36. Ensuite, il y a le témoignage des Écritures, des textes bibliques, verset 39. Les adversaires souvent très religieux de Jésus pensaient connaître par cœur les Écritures, mais ils étaient aveuglés au point de ne pas discerner que ces Écritures témoignent de lui. Or, le Nouveau Testament ne cesse de citer l'Ancien Testament pour montrer que la venue de Jésus, son incarnation, son ministère, sa mort sur la croix, sa résurrection, tout cela a été annoncé de diverses manières dans l'Ancien Testament. Et puis le dernier témoin en faveur de Jésus, versets 45 à 47, c'est Moïse, celui qui était considéré par les enseignants religieux du temps de Jésus, donc par certains de ses accusateurs, considéré comme la référence religieuse absolue. Moïse, à la fois prophète, législateur, celui qui a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte lors de l'Exode. Eh bien, même lui, dit Jésus, même lui, Moïse, a témoigné à l'avance de lui, en annonçant au peuple un temps futur de renouveau, où il connaîtrait un changement radical du cœur, grâce à l'intervention d'un autre qui devait venir après lui. Donc le message de Jésus, en fait, c'est clair, c'est ce que je revendique à propos de mon autorité est amplement confirmé par Dieu lui-même, au cas où il faudrait autre chose, par Moïse, par toutes les Écritures, par Jean-Baptiste, et même par la nature des signes miraculeux que j'accomplis. Signes miraculeux qui, je le rappelle, n'étaient pas simplement des miracles, histoire de faire un miracle, mais qui avaient toujours profondément un sens. Le problème des adversaires de Jésus, cependant, n'était pas qu'ils manquaient de témoignages, d'attestations. Leur problème fondamental, c'était leur hostilité à ce Dieu qu'ils prétendaient adorer et leur hostilité à celui qu'il a envoyé, son fils Jésus. Et là, c'est notre dernier point, Jésus va passer dans le registre de l'accusation. Ce sont ses accusateurs qui se retrouvent sur le banc des accusés. Le problème des accusateurs de Jésus n'était pas qu'ils manquaient, encore une fois, de témoignages fiables, mais leur problème est ailleurs. Et Jésus en dresse un réquisitoire sévère. Verset 38, « Sa parole, c'est-à-dire celle du Père, ne demeure pas en vous. » Verset 42, « Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » Verset 44, « Vous recevez votre gloire les uns des autres, mais vous ne cherchez pas la gloire qui provient de Dieu seul. » Jésus confirme ici ce qu'il a développé tout au long de ce texte. Ses œuvres, ce sont les œuvres de Dieu. Son témoignage, c'est le témoignage de Dieu. Ses attributs sont les attributs de Dieu. Alors pour dire les choses franchement, si on a un problème avec Jésus, c'est qu'on a un problème avec Dieu. Et encore une fois, Jésus ne nous laisse pas de voie médiane. Si on rejette le Fils, nous dit-il ici, c'est bien le Père qu'on rejette. Et on ne peut pas prétendre connaître Dieu si on ne connaît pas son Fils. Le plus frappant, c'est que les hommes, et c'est ce que Jésus relève, les hommes écoutent très volontiers des maîtres à penser, des prophètes d'un genre ou un autre, des stars, c'est le cas encore aujourd'hui, si une personnalité politique ou culturelle sort un nouveau bouquin, dit quelque chose, oh, il faut écouter, il faut se positionner, on estime qu'il est important d'en parler. Je ne dis pas qu'il n'est pas important d'en parler, mais on s'arrête et on écoute. Si Justin Bieber envoie un tweet sur son dernier hamburger, il y a des millions de réactions, des milliers en tout cas. Si Nabila parle de ses cheveux, on en parle pendant un an, etc., etc. Mais quand Jésus nous parle de Dieu, ça, on ne veut pas le savoir. Et on ne veut pas l'écouter. Et je parle aussi pour nous, chrétiens, si souvent, ça nous arrive. À l'époque de Jésus, c'était déjà vrai. Verset 43, « Moi, je suis venu au nom du Père, et vous ne me recevez pas. » Par contre, si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Et ce qu'il dit au verset 44 est très important. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui provient de Dieu seul? Le problème des accusateurs de Jésus, et par extension de tous ceux qui le rejettent aujourd'hui encore, et de chacun d'entre nous, parfois, vient du fait que nous n'avons pas envie de connaître ou de mieux connaître Dieu, de reconnaître qu'il y a un Créateur au-dessus de nous, qui est souverain sur nos vies. C'est la dernière chose qu'on veut entendre. Et on a tendance à accuser Dieu d'être trop étroit, trop restrictif. On veut bien à la limite que Jésus soit un chemin vers Dieu, mais le seul chemin, enfin, c'est pas politiquement correct. Et puis, enfin, Dieu, c'est pas sérieux, il faut quand même adapter l'offre à la demande. On a envie de dire, il y a une demande très diverse, il faut quand même adapter l'offre. Mais Dieu est Dieu. S'il est vraiment Dieu, il a tous les droits. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous terrifier parce que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il nous invite à connaître ce qu'il y a de meilleur par la foi. Mais il a choisi de se faire connaître à nous par Jésus-Christ, son Fils unique et éternel, son vis-à-vis parfait. Jean parle de lui au début de son évangile comme le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans, bien sûr. Mais Dieu est Dieu. Il est tel qu'il est. Et ce n'est pas à nous de lui dire comment il doit être. Et ce n'est pas à nous de lui dire comment il doit sauver. Il a choisi de se faire connaître à nous par Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qui a revêtu notre condition humaine, qui est mort à la croix pour subir la condamnation de la justice de Dieu contre le péché de l'homme, à notre place, pour que nous n'ayons pas à subir cette peine. Il est ressuscité, il est vivant, il est le souverain légitime de l'univers. Et par ses actes, en notre faveur, Dieu a démontré l'ampleur stupéfiante de son amour pour nous. Un amour qui nous est offert librement par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça que Juliana a dit ce soir en passant par les eaux du baptême. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai des meilleurs, tout est pour toi Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ et elle l'a manifesté par le baptême. Et c'est ce que Dieu lui-même nous invite à entendre, à croire, à vivre. Pour certains peut-être pour la première fois, pour d'autres à entendre à nouveau. Si nous nous sommes lassés, si nous nous sommes quelque peu éloignés, Dieu nous invite à entendre sa voix à nouveau. Amen.